Vous écoutez On lit pour vous.
Des prothèses bioniques pour les soldats amputés. Un texte de Pierre Thérèse et Paul Boyer, paru le 6 mai 2026 dans la presse. Prothèses bioniques connectées aux muscles et rééducation de pointe. En Ukraine, un centre dernier cri repousse les limites de la médecine afin d'aider les soldats amputés à retrouver une autonomie quasi semblable à celle d'avant la perte de leurs membres. Un faisceau laser de couleur rouge sang vient chatouiller la cicatrice de Denis, un patient de 36 ans, amputé d'une jambe et d'un bras, à cause d'un éclat d'obus dans la région de Donetsk, dans l'est de l'Ukraine. Stoïque, cet ancien soldat porte des lunettes de protection opaques pour ne pas se brûler la rétine. Cette séance, dirigée par un thérapeute, sert à ramollir la peau durcie autour de la balafre qui orne son épaule droite. Après l'intervention chirurgicale, nous devons attendre près de 8 semaines que la plaie soit bien cicatrisée pour commencer les séances de laser. Le but de ce processus est d'améliorer la guérison de la plaie et de rendre la peau plus molle pour qu'on puisse y insérer un implant en titane jusqu'à l'os, spécifie Sven, le praticien, au beau milieu d'une salle du centre de réadaptation Titanovie. Dans une pièce annexe, 4 colosses se font masser pour réactiver la circulation sanguine dans leurs membres fraîchement amputés. La spécificité de ce centre unique au monde, ouvert fin 2024, est d'accueillir 150 anciens soldats privés de un ou plusieurs membres à cause de la guerre. 40 d'entre eux y sont logés toute l'année, les autres viennent en ambulatoire. Pour ces hommes, qui ont en moyenne 35 ans, il est proposé d'expérimenter des implants dits « intelligents » afin de pouvoir marcher à nouveau sur 2 jambes ou se servir de leurs doigts comme avant. Plus que des prothèses classiques, ce centre propose de fixer dans l'os du membre amputé une tige en titane sur laquelle le patient pourra visser un nouveau bras, une jambe ou encore une main réagissant directement aux contractions musculaires. Une fois la prothèse fixée, le titane agit comme un transmetteur d'informations entre le corps et le nouveau membre bionique. J'enfile ma jambe, je détache mon bras, je fais ce qui me chante, s'exclame Gleb Blenia, en pleine démonstration. Le jeune homme a bénéficié de cette opération de nouveau genre en 2025. La toute première prothèse bionique du pays a été posée sur un vétéran en mai 2023, blessé sur le front. Comme la plupart des estropiés du centre, Gleb Blenia s'est porté volontaire pour défendre son pays face aux troupes russes après l'invasion de 2022. Originaire de la ville de Kryvyi Rih, la même que le président Volodymyr Zelensky, il suit une formation militaire de 3 semaines au Royaume-Uni avant d'être déployé dans les tranchées impitoyables du Donbass. Une nuit de décembre 2023, un drone russe le surprend en mission avec 3 de ses camarades. Tous meurent sur le coup de la frappe, sauf Gleb Blenia, qui réussit à poser des garrots sur sa jambe gauche et sur son bras droit, seul. Pour cet amateur invétéré de la trilogie Star Wars, sa prouesse de survie n'a rien à envier à Luke Skywalker ou Obi-Wan Kenobi. Son bras valide est quant à lui entièrement tatoué, en référence à la fameuse saga de George Lucas. Une fois l'hémorragie stoppée, j'ai réussi à envoyer mon emplacement à l'équipe médicale. Après m'avoir récupéré, le médecin du point de stabilisation m'a dit que si je voulais vivre, il fallait me couper la jambe et le bras, se souvient-il. Après l'amputation, il se réveille à l'hôpital de Dnipro avant d'être transféré dans la clinique spécialisée en traumatologie Superhumans située à Lviv, dans l'ouest du pays. Entre ses murs, il se sent oppressé et ne trouve pas chaussures à son pied. Les prothèses classiques étaient inconfortables, celles en plastique dur notamment. Elles tombaient, je transpirais dedans, et je ne pouvais pas marcher bien longtemps, se souvient Gleb Blenia, vétéran. Pendant plusieurs semaines d'errance médicale, la dépression le guette, jusqu'au jour où un médecin lui parle d'une nouvelle technologie. Ni une ni deux, il appelle le directeur de Titanovie, Vyacheslav Zaporozhets, qui le reçoit la semaine suivante. Au total, Gleb Blenia a déjà subi 4 opérations pour bénéficier de prothèses intelligentes. Là où les prothèses classiques échouent, Les implants en titane sont un nouvel espoir pour les soldats blessés au front. Dotés de capteurs intelligents, ils permettent aux bras artificiels d'interagir directement avec le corps du patient grâce à la myoélectrique, qui capte les informations envoyées par les muscles sous forme de décharges électriques. Des espaces sont aussi consacrés à la santé mentale, comme une salle de soutien psychologique où chaque patient peut apprivoiser ses douleurs fantômes à l'aide d'un logiciel d'intelligence artificielle. Sur un écran, ils peuvent se voir, ainsi que leurs membres amputés reconstitués en 3D et de nouveau attachés à leur corps, qu'ils peuvent bouger dans l'espace en temps réel. Une manière de matérialiser la douleur malgré l'absence. 120 000 amputés de guerre. En fin de matinée, Vyacheslav, thérapeute en chef du centre, détaille à la presse que les prothèses bioniques n'en sont qu'à leur début. Il va falloir des ajustements pour éviter les infections qui sont plus fréquentes qu'avec des prothèses traditionnelles. Par ailleurs, il est aujourd'hui impossible de courir avec ces prothèses, malgré leur coût élevé. Il faut aujourd'hui compter environ entre 130 000 et 160 000 $ canadiens pour un membre artificiel. Au coût très élevé s'ajoute une autonomie de batterie à perfectionner. Une utilisation massive de ces membres intelligents à ostéo-intégration devrait permettre aux scientifiques d'améliorer leur modèle de façon empirique, avec notamment l'apprentissage automatique de l'intelligence artificielle qui permet à la machine de mieux comprendre les mouvements humains les plus fréquents. Mais un travail titanesque les attend. L'Ukraine compterait déjà près de 120 000 amputés de guerre, selon les estimations les plus larges. C'était « Des prothèses bioniques pour les soldats amputés », un texte de Pierre Thérase et Paul Boyer, paru le 6 mai 2026 dans la presse.
Des enfants sages, est-ce vraiment ce que nous voulons? Un texte d'Olivia Lévy, paru le 30 avril 2026 dans la presse. Comme ils sont sages, vos enfants! Les parents sont fiers quand on leur fait ce compliment. Bon nombre se disent « Mission accomplie, nos enfants ne font pas de bruit, ils sont obéissants et ne dérangent personne. Mais est-ce vraiment ce que nous voulons? Peut-on vraiment demander à des enfants d'être sages? » s'interroge Audrey Jougla dans un article publié l'hiver dernier dans Philosophie Magazine. On ne veut pas que nos enfants soient dans une obéissance aveugle. On souhaite qu'ils soient capables de réfléchir, de poser des questions qui, parfois, peuvent déranger, mentionne en entrevue la professeure de philosophie. La sagesse, c'est de mener sa vie avec discernement, modération, prudence et calme, et ça s'acquiert avec l'âge et l'expérience. Des comportements et habiletés qu'on demande aux adultes. La sagesse des enfants renvoie à un savoir-vivre et à l'obéissance, précise-t-elle. Notre société valorise pourtant la sagesse des enfants et des adolescents. On admire les comportements exemplaires, à l'école tout comme à la maison. On se dit que cet enfant est la résultante d'une certaine autorité et d'une éducation ferme. Il respecte les règles, il obéit. Nous vivons dans un système qui valorise le fait de se conformer. Mais à force de créer des modèles, on peut perdre son originalité et sa personnalité, estime la philosophe, aussi autrice de « La maternité joyeuse ». Selon Audrey Jougla, le défi de l'éducation aujourd'hui est de susciter l'esprit critique tout en respectant les règles. L'éducation, trouver un équilibre. Pour la psychologue Nadia Gagné, il y a un juste équilibre à trouver dans l'éducation des enfants. Nous ne sommes plus dans l'époque autoritaire qui a traumatisé des générations entières et où l'enfant n'était pas respecté, ni dans les excès permissifs ou le laxisme d'une éducation trop bienveillante. Elle prône un style d'éducation parentale démocratique et libérale, rien à voir avec la politique. On est dans l'encadrement et la supervision, avec de la chaleur et de l'affection, explique-t-elle. Un peu comme dans un état de droit où il y a des règles, mais avec un droit de parole, le droit de les remettre en question, d'avoir des revendications, le tout dans le respect. Elle propose aux parents de discuter avec leurs adolescents quand leurs règles ne conviennent plus et de considérer leurs paroles. C'est faire honneur à la maturité grandissante de nos ados de les écouter et les laisser argumenter. La psychologue rappelle que nous naissons tous avec un tempérament. Il y a plusieurs variables. Un tempérament plus calme ou plus agité, avec une différente intensité émotive. Puis, l'éducation des parents entre en jeu. Il y a des enfants qui ont un tempérament plus introverti, qui sont plus sages, d'autres plus extravertis, qui demandent plus d'attention et de supervision des parents, dit-elle. Les enfants, c'est par essence le dérangement. Ce sont des boules d'énergie. On n'est pas dans la quiétude. La turbulence des enfants existe. Ce sont des corps en mouvement. Ce ne sont pas que des esprits. La professeure de philosophie voit ses élèves de 17 et 18 ans assis sur une chaise toute la journée, ce qui est, selon elle, contre nature. Elle compare l'idée de sagesse à une maison trop bien rangée, soit quelque chose d'ennuyant, voire de mortifère. Être capable de désobéir, ça veut aussi dire être capable de s'affirmer, d'affirmer ses idées et ça se perd, souligne Audrey Jouglin. En tant qu'adulte, on nous a appris à nous taire et à ne pas poser certaines questions. Mais cette candeur, ce regard d'enfant, cette spontanéité qui désarçonne parfois, on doit l'encourager. Nadia Gagné soulève l'intolérance grandissante envers les enfants dans les espaces publics, car les lieux sans enfants sont de plus en plus nombreux. Les adultes d'aujourd'hui ont-ils une moins grande tolérance parce qu'ils sont d'anciens enfants rois ou sont-ils soumis à trop de stress chronique et sont moins tolérants face aux enfants qui viennent perturber leur tranquillité? S'interroge-t-elle. Le fait que toute une partie de la population âgée de 20 à 30, 35 ans n'a pas d'enfants, ce qui n'était pas le cas dans les générations précédentes, explique en partie cette intolérance, pense Audrey Jouglin. Les jeunes adultes sont forcément moins tolérants que de jeunes parents. Ce sont des gens qui voyagent, qui sortent et qui utilisent l'espace public et qui, pour eux, les enfants constituent une pénibilité. Elle observe également que les parents font beaucoup plus d'activités extérieures avec leurs enfants qu'auparavant et qu'ils ne sont pas toujours les bienvenus. Audrey Jouglin croit cependant qu'il faut tolérer un certain débordement, car la vie, par essence, déborde. Ce qui compte, selon elle, ce n'est pas d'être sage, mais de s'adapter en fonction des situations. C'est ce qui sera important dans la vie d'adulte. À partir du moment où on sait que notre enfant pourra s'adapter selon les contextes et qu'il est capable de réfléchir et de prendre les bonnes décisions, c'est ce qui compte, conclut-elle. C'était « Des enfants sages. Est-ce vraiment ce que nous voulons ?» Un texte d'Olivia Lévy paru le 30 avril 2026 dans la presse.
Il est possible d'entraîner son nez pour retrouver un odorat perdu. Un texte de Pauline Gravel paru le 13 mai 2026 dans Le Devoir. Il est possible de récupérer un odorat perdu grâce à une exposition répétée et régulière à des odeurs. Dans le cadre du congrès de l'ACFAS qui se déroule cette semaine à l'Université du Québec à Trois-Rivières, le professeur d'anatomie, Johan Frasnelli, a présenté lundi les résultats de recherche qui démontrent comment la plasticité des zones cérébrales consacrées à l'olfaction permet une telle récupération. La perte de l'odorat a des conséquences importantes sur la qualité de vie car elle diminue, entre autres, le plaisir de manger, voire le bien-être général, a souligné d'entrée de jeu le docteur Axel Renteria, professeur et chirurgien sino-nasal au Centre hospitalier de l'Université de Montréal, lors de la conférence. Selon deux études effectuées en Allemagne et en Suède, environ 15% de la population présente une hypsomie, une réduction de l'odorat, et 5% une anosmie, une absence d'odorat. Ces déficits de l'odorat peuvent notamment survenir à la suite d'une sinusite chronique ou d'une infection des voies respiratoires supérieures comme la COVID-19, ce qu'on appelle un trouble de l'odorat post-viral, mais aussi d'un traumatisme crânio-cérébral ou en raison de l'âge. Il y a néanmoins une bonne nouvelle parce qu'il y a la possibilité d'une récupération spontanée, dit M. Franelli. Trois facteurs peuvent prédire un tel événement. Le premier est la cause du trouble de l'odorat. Les personnes qui ont perdu l'odorat à la suite d'une infection virale ont plus de chances de se rétablir spontanément, 30%, que celles qui ont subi un traumatisme crânio-cérébral, 10%. Le second est l'âge du patient. La situation des plus jeunes est plus susceptible de s'améliorer. Le troisième facteur est le temps écoulé depuis le début des symptômes. Si celui-ci se compte en semaines, la probabilité d'une récupération spontanée est plus élevée que si les symptômes datent de quelques années. Mais il ne s'agit pas d'une loi immuable. M. Frasnelli cite le cas d'une femme qui a vu soudainement son odorat s'améliorer après 8 ans sans toutefois revenir à la normale. Réentraîner le cerveau. Lors d'études effectuées sur des rongeurs, on avait observé une augmentation de leur sensibilité olfactive après qu'on les ait eu exposés à des odeurs de façon répétée mais non continue. Le chercheur allemand Thomas Hummel a tenté la même expérience chez des individus qui avaient perdu l'odorat à la suite d'une infection des voies respiratoires supérieures. Il leur a présenté 4 odeurs de façon répétée pendant 12 semaines. Cet entraînement a alors accru leur sensibilité aux odeurs qu'on leur avait présentées et a amélioré leur fonction olfactive générale. Des études ultérieures ont montré que le choix et le nombre d'odeurs qui étaient présentées lors de l'entraînement n'avaient pas vraiment d'importance sur le résultat de l'entraînement, a par ailleurs indiqué M. Frasnelli. Plus récemment, son équipe a testé un entraînement olfactif intensif auprès d'étudiants universitaires venus au laboratoire. On leur demandait alors de détecter et de classer différentes odeurs leur étant présentées à différentes intensités pendant 20 minutes. Après 6 semaines d'un tel entraînement, on a mesuré différentes caractéristiques de leur odorat. On a alors entre autres observé que leur seuil de détection et leur mémoire olfactive s'étaient améliorés par rapport aux étudiants qui avaient suivi un entraînement visuel plutôt qu'olfactif. De plus, ils présentaient une augmentation de l'épaisseur corticale du gyrus frontal inférieur droit et du cortex entorhinal droit. 2 structures cérébrales jouant un rôle dans le traitement des odeurs. Des nez musclés. Le chercheur a également étudié des personnes qui effectuaient une formation de 18 mois en sommellerie à l'Institut du tourisme et d'hôtellerie du Québec. L'expérience n'a pas révélé de grandes différences entre les performances olfactives avant et après la formation. L'entraînement olfactif semble surtout fonctionner quand les participants ont un défi à relever. Une exposition passive ne marche pas vraiment, a noté M. Frassinelli. Par contre, l'imagerie par résonance magnétique a mis en lumière une plus grande taille du bulbe olfactif et une plus grande épaisseur du cortex entorhinal droit de ces étudiants comparativement à ce qui a été observé chez des employés en administration de l'ITHQ qui ont servi de population contrôle. Ces résultats concordaient avec des observations effectuées dans des études antérieures qui avaient montré une augmentation du volume du cortex orbitofrontal des parfumeurs et du cortex entorhinal droit des maîtres sommeliers par rapport à des contrôles. L'augmentation du volume de ces structures cérébrales impliquées dans le traitement de l'olfaction et le nombre d'années d'expérience était corrélé positivement, a souligné le scientifique. Les chercheurs ont également découvert que des stimulations gustatives et visuelles modulaient la perception olfactive avec un effet amplificateur particulièrement marqué avec le goût, ce qui démontre qu'on peut augmenter l'olfaction par la stimulation d'autres canaux sensoriels. La stimulation multisensorielle s'avère même supérieure à l'entraînement classique, a indiqué M. Frassinelli. Pour sa part, le Dr Renteria a affirmé qu'un entraînement olfactif de 3 mois, à raison de 2 séances par semaine, lors desquelles on exposait les patients à 4 odeurs différentes, améliorait l'odorat chez plusieurs patients. Lorsqu'il ajoutait à cet entraînement une irrigation nasale de corticostéroïdes pour diminuer l'enflure et améliorer la respiration, les patients connaissaient une amélioration supplémentaire. L'adjonction de suppléments d'oméga-3 qui favorisent la réplication des cellules permettait un gain additionnel. Et l'administration d'un 4e traitement, soit l'injection d'une solution de plasma concentré en plaquettes dans la muqueuse nasale, entraînait de nouveaux progrès. Et ces progrès stimulaient les patients à continuer leur entraînement olfactif, a souligné le spécialiste. C'était « Il est possible d'entraîner son nez pour retrouver un odorat perdu ». Un texte de Pauline Gravel paru le 13 mai 2026 dans Le Devoir.
Amazon, visé par une action collective au Québec pour fixation de prix. Un texte de Stéphanie Martin paru le 28 avril 2026 dans Le Devoir. Amazon Canada est visé par une autre demande d'action collective. Cette fois-ci, on reproche aux géants du commerce de détail en ligne d'avoir manigancé de diverses façons pour fixer les prix de nombreux produits de consommation comme des pantalons, des gourmandises pour chiens, des gouttes pour les yeux et de l'engrais. Les combines ont entraîné une hausse des prix pour les consommateurs. Selon les allégations de la poursuite déposée fin avril au Québec, Amazon aurait fait pression sur ses vendeurs, notamment afin de faire augmenter le prix des biens qui sont vendus sur les plateformes de ses compétiteurs comme Walmart, Target et Home Depot. On peut lire dans la poursuite plusieurs exemples de stratagèmes utilisés dont celui-ci. Amazon offre des pantalons de son vendeur Levi's à $26,99, mais constate que Walmart vend les mêmes à $25,47. Amazon envoie donc à Levi's un lien vers le site web de Walmart en demandant que cet écart de prix soit réglé. Le lendemain, Levi's rapporte avoir parlé à Walmart qui accepte d'augmenter le prix des pantalons à $29,99. Puis, Amazon augmente le prix des 10 pantalons sur son propre site à $29,99. Résultat, le consommateur paie plus cher, peu importe l'endroit où il achète les pantalons. Selon la procédure judiciaire, Amazon se sert de sa position de pouvoir en menaçant ses vendeurs de pénalités ou même de retirer leurs produits de sa plateforme s'ils ne se plient pas à ses exigences. Si la demande en justice est accueillie, tous les Canadiens qui ont acheté des biens sur Amazon depuis 2018 pourraient être indemnisés si le tribunal juge que ces prix ont été artificiellement gonflés par ces manœuvres. Rien de ce qui est allégué dans cette procédure n'a encore été prouvé devant un tribunal québécois. Pour pouvoir aller de l'avant, la demande doit d'abord être autorisée par un juge de la Cour supérieure. Si ce dernier donne son feu vert, l'action en justice pourra ensuite franchir toutes les étapes normales d'une poursuite judiciaire et donner lieu à un procès. La poursuite américaine. Une poursuite contenant des reproches similaires a été intentée aux États-Unis en 2022 par l'État de la Californie. Il y a quelques jours, le procureur général, Rob Bonta, a dévoilé ce qu'il juge être des preuves du complot de fixation de prix. Amazon travaille illégalement pour s'engranger des profits en s'assurant que les consommateurs n'ont nulle part où aller pour des prix moins élevés. On les verra devant le tribunal, a-t-il lancé. Ne pas laisser de traces. Il est aussi allégué dans la poursuite que les employés d'Amazon ont été formés pour ne pas laisser de traces de cette fixation illégale de prix. Par exemple, ils auraient reçu des instructions de ne pas communiquer par courriel lorsqu'ils discutent des prix de vente des articles. Il est souvent préférable d'avoir ces conversations par téléphone, serait-il indiqué dans un document interne. Pour l'instant, aucune somme spécifique n'est réclamée dans l'action. Il est demandé au juge qui entendra l'affaire de payer au consommateur une somme à être déterminée. D'autres demandes pour intenter des actions collectives ont été déposées ces dernières années au Québec contre Amazon, dont celle lui reprochant de ne pas avoir donné suite à sa promesse de livraison en 2 jours. Au moment où ces lignes étaient écrites, Amazon Canada n'avait pas encore répondu aux questions du devoir. C'était Amazon visé par une action collective au Québec pour fixation de prix, un texte de Stéphanie Marin, paru le 28 avril 2026 dans Le Devoir.